Merci, je suis Vivian Zabarinda pour les comptes de la radio-télévision belge francophone RTBF. La question, c'est par rapport aux différents observateurs humanitaires. Et, bien sûr, observé au Nord Kivu, précisément dans la localité de Kibaya à Bounagana, qui a 210 personnes déplacées en provenance des Bouléoussa, qui se sont bien sûr installées sans eau, sans nourriture et sans médicaments. Je ne sais pas si dans les programmes des réponses rapides au mouvement de la population, vous avez un plan préétabli.
Oui, nous allons faire appel à notre collègue Doja qui va tenter de vous donner quelques éléments de réponse. C'est à vous.
Par rapport à cette situation, c'est que l'on doit d'abord vous dire qu'il y a eu une mission le 1er juillet qui s'est rendue dans la zone pour d'abord faire une évaluation des besoins. L'évaluation a été faite. Les besoins sont énormes et nécessitent absolument une intervention et c'est une priorité pour les acteurs humanitaires. Mais pour arriver à cette assistance, il y a des préalables à remplir, notamment sécuritaires, notamment aussi concernant la protection des civils. Des contacts sont en cours avec les acteurs certains acteurs qui du secteur de la protection civile pour régler un certain nombre de problèmes et seulement après l'assistance pourrait venir, mais ça reste vraiment une priorité parce que les besoins sont énormes.
Vous l'aurez reconnu, ceux qui ne connaissent pas son nom, il s'agit bien de notre collègue Sylvestre Doucha. Deuxième question à Goma.
Merci beaucoup, c'est Toulinabo du journal Le Peuple est souverain. Ma question s'adresse au colonel Amouzou. Colonel, pourquoi la protection de la MONUSCO n'arrive pas qu'après les événements malheureux, entre autres les tueries, massacres et enlèvements, alors que la protection de la population civile doit être normalement antérieure et postérieure? La dernière en date est de ce mardi 5 juillet à Oicha, dans les territoires de Beni, où on déplore la mort de 9 civils. Quel sera alors l'état d'esprit aujourd'hui de la population de Beni par rapport à votre message du résultat significatif que vous avez parlé la fois passée?
Et effectivement, hier, et dans la localité de Oicha, les présumés éléments de l'ADF ont encore attaqué. Et je disais tantôt que l'attaque a été repoussée par les FADC, appuyée par la force de la MONUSCO. Il faut reconnaître que notre mandat, c'est de neutraliser ces groupes armés. C'est de prévenir et de stopper ces massacres contre les populations civiles. Et c'est ce que nous faisons sur le terrain. L'ADF est actuellement sous pression des opérations en cours. Je parle de l'opération Oussama. Et l'ADF cherche à se ravitailler et à dissocier les populations des forces régulières. Et c'est ce que nous faisons sur le terrain. Les populations même suivent. C'est pourquoi tous les jours, nous lançons un appel aux populations civiles de collaborer avec les forces de défense et sécurité congolaise et la MONUSCO sur le terrain. Je pense que les FADC, appuyés par la force de la MONUSCO, ont repoussé l'attaque et c'est au cours du repli de ces présumés éléments de l'ADF qu'ils ont commis ces forfaits en tuant 9 civils. Nous présentons les condoléances aux familles et nous continuons toujours à appeler la population civile à collaborer franchement avec nous pour que nous puissions arriver à neutraliser ces forces négatives. Merci beaucoup. Nous allons revenir ici à Kinshasa, mais je voudrais juste ajouter que cette situation sécuritaire dans la zone de Beni nous tient d'autant plus à cœur que la semaine dernière, le David Gresley, qui est le représentant spécial adjoint du secrétaire général, était dans cette même zone du territoire de Beni avec le général Gwebi, le commandant de la force de la MONUSCO, pour des visites de terrain afin de revoir un peu comment les dispositions qui sont prises sur place, comment les renforcer afin d'être beaucoup plus opérationnels et de sécuriser encore davantage ces populations de cette zone du territoire du Béni. Et nous allons continuer à travailler main dans la main avec les FRDC. Je ne veux pas parler à leur nom, mais vous avez entendu le porte-parole des FRDC dans la zone dire que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, les forces FRDC sont en alerte dans cette zone et nous travaillons vraiment de façon étroite ensemble et nous allons continuer à le faire pour en tout cas venir à bout de cette menace sécuritaire qui est imposée aux populations de cette zone de façon injuste et nous allons tout faire pour que cela s'arrête résolument. Nous verrons donc ici donc à Kinshasa pour prendre, on va prendre une question là et puis une question, on peut donner le micro à madame. Allez-y.
Je demande à Sylvestre. La fin de la semaine dernière était marquée par la recrudescence des violences à Beni, avec le massacre de quelques villageois par de forces négatives. À l'heure actuelle, comment se présente la situation humanitaire sur place? Merci.
À Beni, un petit tour d'horizon. Est-ce que vous intervenez à Beni? Beaucoup d'actions humanitaires sur place à Beni de la part des ONG internationales ou des agences du système des Nations Unies?
La communauté humanitaire reste mobilisée pour apporter assistance aux personnes affectées dans la zone avec tous les mouvements de population qui s'en suivent. Mais comme j'ai eu à le dire aussi, notamment concernant par exemple Bleoussa, il y a toujours dans la zone des préalables qu'on doit remplir. Parce que la solution dans certaines zones n'est pas une solution uniquement humanitaire. C'est vrai qu'il y a des besoins, mais il faudrait aussi que des acteurs impliqués dans la gestion et dans la prévention de conflits s'implique pour que la situation soit favorable à la réponse humanitaire. Donc il y a des préalables à remplir et c'est vrai qu'il y a des mouvements et qu'il y a des besoins qui sont dans la zone.
Question droite, il y a beaucoup de à gauche, du moins à ma gauche, il y a beaucoup de... Allez-y alors.
Merci, Charles. C'est Elvira Pandou pour le compte de la RTL. Je ne sais pas si vous avez suivi la réaction du secrétaire général adjoint du PPRD, Ramazani Shadari, faite suite à la déclaration de Mando Timba lors de la conférence de presse qui a eu lieu ce lundi à Kinshasa. Donc je cite, « Nous venons avec un nouveau discours pour changer la constitution. Il y aura un troisième mandat pour le président Kabila par référendum ou sous une autre forme. » Vous, en tant que MONUSCO, je ne sais pas, après une telle déclaration, est-ce que le dialogue que vous soutenez tant, vous pensez que cela a toujours plutôt sa raison d'être? Et plus, excusez-moi, une deuxième petite question. Dans un communiqué transmis au Conseil de sécurité de l'ONU, Ban Ki-moon a annoncé que la MONUSCO est en pleine conception d'un plan d'urgence sur les contextes électoraux en RDC. Il s'est dit également préoccupé par les tensions politiques en RDC et soutient la tenue du dialogue politique. J'aimerais savoir quel est le format du dialogue que soutient le secrétaire général des Nations Unies. Merci.
Je vais commencer par la dernière question. En fait, il s'agit du rapport trimestriel du secrétaire général présenté au Conseil de sécurité. Ce rapport, pour votre information, va être officiellement présenté demain à 15h, heure locale, par le secrétaire général lui-même. Généralement, ça se fait avec le représentant spécial, M. Sidikou, qui, pour l'heure, a des obligations ici au niveau de la mission, donc il n'a pas pu faire le déplacement à New York, mais le secrétaire général va présenter donc son rapport trimestriel au Conseil de sécurité où il va évoquer un certain nombre de sujets. C'est vrai que ce rapport est déjà dans la presse, mais je voudrais vous dire que nous attendons que le secrétaire général le présente officiellement. Et après son interaction avec le Conseil de sécurité, nous pouvons, nous, en ce moment, commenter. Il se peut, même si le rapport a été publié, que certaines données puissent évoluer. Je ne dis pas changer complètement, mais au moins évoluer. Donc nous attendons que ce rapport soit effectivement présenté par le secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité, qu'il y ait cette interaction avec les membres du Conseil, et ensuite nous pourrons commenter, analyser avec vous en profondeur d'ailleurs ce rapport qui est très intéressant car il fait un peu un tour d'horizon de la situation, c'est vrai, politique dans le pays, mais aussi de la situation électorale, de l'évolution électorale, des problèmes de sécurité, des problèmes de protection des civils, etc., etc. Donc il y a beaucoup de points intéressants. Mais nous voulons laisser la primeur quand même de ce débat à M. Ban Ki-moon et ensuite on pourra revenir dessus. Pour ce qui est vraiment des déclarations du secrétaire général du PPRD, du secrétaire du représentant du PPRD récemment, j'avoue que je ne l'ai pas personnellement suivi, mais j'ai suivi un peu les comptes rendus de presse comme vous. Nous avons, comme j'ai dit, une constance au niveau ici des Nations Unies, au niveau de la MONUSCO, et nous avons une feuille de route, d'ailleurs, qui est reprise un peu dans les grandes lignes par le monsieur Ban Ki-moon dans son rapport trimestriel. Nous voulons et nous nous inscrivons dans la dynamique du dialogue. Et c'est à l'issue de ce dialogue, nous voulons voir un consensus se dégager, un consensus politique bien sûr, avec la majorité des acteurs politiques autour de cette situation politique plutôt difficile, afin que les uns et les autres puissent se mettre d'accord sur une feuille de route qui pourra donc amener le peuple congolais vers les prochaines échéances électorales. Et c'est ce que nous souhaitons de tout cœur, c'est cela notre credo, c'est ce que le secrétaire général a répété à plusieurs reprises, c'est ce que souhaite la communauté internationale. Et c'est pour cela que vous avez vu cette semaine, d'ailleurs, le représentant spécial du secrétaire général ainsi que d'autres envoyés spéciaux étaient à Addis Abeba pour apporter leur soutien à la facilitation instaurée par l'Union africaine dans ce sens. Donc tout se met en place, en tout cas au niveau de la communauté internationale, avec l'appui des Nations Unies, pour que ce dialogue politique ait lieu en RDC, afin que nous puissions avancer dans ce processus politique ici sur le terrain. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport aux deux volets de votre question, mais nous restons un peu ici à gauche. Je crois que vous voulez poser une question, ensuite on va repartir à droite ou à Goma, on verra bien. Allez-y, je crois.
Sonia Rollet de RFI. Une question par rapport à ce qui s'est passé à Oicha. Ce qu'a l'air de dire le porte-parole militaire de la MONUSCO, c'est que les casques bleus étaient donc, dès le début de l'attaque, sur place avec les FRDC pour repousser cette attaque. Or, ce n'est pas les comptes rendus qu'on a pu avoir au moins des organisations de défense des droits de l'homme qui disent que la MONUSCO est intervenue en retard, que les FRDC qui se trouvaient encore plus près que la MONUSCO sont intervenus en retard. Comment expliquer une telle différence de point de vue? Est-ce qu'il pourrait nous donner concrètement les heures d'arrivée des casques bleus sur le terrain par rapport au début de l'attaque, l'heure d'arrivée des militaires, et comment est-ce que ça serait possible qu'avec toutes ces forces déployées, il y ait 9 personnes massacrées juste à côté des positions des FRDC? Voilà.
Colonel Amouzou, peut-on aller dans les détails du timing des interventions des différentes forces FRDC MONUSCO sur le terrain? Est-ce que vous avez ces précisions?
Merci beaucoup, Charles. Mais demander le timing, c'est trop demandé. Ce que moi je sais, c'est que l'attaque a commencé vers 5h45. Et nous nous sommes portés immédiatement sur le terrain. J'ai dit nous, FADC, force de la MONUSCO. Nous nous sommes portés sur le terrain. Puisque les enseignants avaient comme objectif d'aller à l'hôpital d'Oicha pour opérer. Nous les avons repoussés. Je disais tantôt, nous les avons repoussés. Et c'est au cours de leur repli qu'ils ont commis ce sale besoin. Mais demander de donner l'heure à laquelle la force est intervenue, les FADC sont intervenus. Ça, si vous avez besoin de ça, rapprochez-vous de moi Plus tard, je pourrai consulter les opérations et vous donner les détails. C'est nous qui sommes allés sur le terrain, ce ne sont pas les opérateurs de droits de l'homme qui sont allés confronter, affronter les ADF. C'est ce que nous avons, que nous vous livrons. Merci.
Je vous recommanderais aussi d'être prudent. C'est pas tout ce que les ONG sur place disent qui est vraiment parole d'évangile aussi. Hein. Je dis pas que c'est toujours faux, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Et c'est de votre devoir, vous, journalistes, de vérifier vos informations pour être sûr que, bon, voilà, ce qu'ils vous disent est vrai à 100% ou peut-être vrai à 50%. On ne sait pas, mais le colonel vous a donné la version officielle de la force. Et pour ma part, je crois que je vais m'en tenir à ça. Je vais prendre une dernière question ici parce que je vois qu'à Goma aussi les gens sont impatients. Hein. Il faudrait qu'on partage un peu le temps de parole entre Kinshasa et Goma. On va rester là, donner le micro là et puis ensuite on ira à Goma et ensuite on reviendra ici.
La parole, c'est Médard Mouyaya du journal Le Potentiel. À suivre le colonel Hamzou tout à l'heure, il a bien dit, en des termes clairs, que le mandat de la MONUSCO était de neutraliser les forces négatives, les stopper et les empêcher de massacrer les populations. Et dans les rapports de la MONUSCO, si j'ai bonne mémoire, il a été indiqué que le nombre de forces négatives sur le terrain avait sensiblement diminué. Mais curieusement, on se rend compte qu'il y a rebondissement qui donne lieu à une insécurité criante qui ne dit pas son nom. Nous nous demandons pourquoi ce jeu de ping-pong, jusqu'à quand la situation pourra-t-elle traîner en longueur.
On ne peut pas dire que de façon drastique le nombre de forces négatives sur le terrain est diminué. Je ne sais pas d'où vous tenez ces chiffres, mais ce ne sont pas les nôtres en tout cas. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, on nous disait même l'apparition d'un nouveau groupe. Demandez aux collègues journalistes à Goma, ils vont dire qu'il y a eu même l'apparition de nouveaux groupes rebelles dans la zone. Des informations que nous essayons de vérifier, ça a été annoncé d'ailleurs par des chefs militaires au niveau donc des FARDC. Donc nous ne pouvons pas dire que le nombre de groupes armés diminue dans cette zone de l'est du pays. Quel que soit ce nombre d'ailleurs, je crois que cela ne nous intimide pas du tout. Nous avons un mandat, c'est vrai, de neutraliser les forces négatives. Nous nous attelons à ça aux côtés des FARDC. C'est un travail de longue haleine. C'est pas il n'y a pas de solution miracle. On vous a dit, c'est vrai que la solution est militaire, mais parfois, je dis pas toujours, parfois aussi la solution est politique pour certains cas. Donc, quelles que soient, j'allais dire, les situations, ce mandat donné par le Conseil de sécurité à la MONUSCO progresse sur le terrain avec les différentes interventions que nous avons aux côtés des FARDC. Nous allons essayer de tout mettre en œuvre pour que cela puisse apporter des fruits visibles, sensible et concret pour les populations qui vivent dans l'est du pays. Goma, nous allons rester avec vous pour deux questions. Goma, allez-y vite. Nous avons.
Oui, mon nom c'est.
Voilà, allez-y.
Alors, mon nom, c'est Frédéric Ferouz. Je suis journaliste à Radio Sao Kenji, ici à Goma. Et ma question s'adresse une fois encore à M. Sylvestre Moudinga, et c'est sur la visite que vous avez faite le week-end dernier à Bouléoussa. C'était pour évaluer les besoins de la population, pour apporter une assistance humanitaire. Mais ils vous ont répondu, vous les humanitaires, qu'ils avaient préalablement besoin de la paix avant les pains. Je ne sais pas comment vous leur avez répondu. Et est-ce que vous allez mener un plaidoyer en faveur de la situation de chez eux?
Je l'ai peut-être un peu dit tout à l'heure que nous sommes aussi en contact avec les acteurs qui s'occupent de la gestion et de la prévention de conflits. Parce que c'est ça qui permet d'améliorer l'environnement et de permettre l'assistance. Parce que si cela ne s'implique pas, il sera difficile d'apporter une réponse humanitaire aux besoins que nous avons rencontrés sur place.
Goma, toujours une autre question? Je vois 2-3 mains à Goma. Rapidement.
Je m'appelle Kasumas Mungazi, journaliste scientifique. Ma question s'adresse à Florence.
Il y a des mois que vous aviez annoncé l'installation de l'énergie renouvelable dans certaines villes du pays. Je voulais savoir, est-ce que l'installation est effective? Quelles sont les villes qui sont déjà servies? Et comment évolue la situation sur le terrain?
Voilà, question d'un journaliste scientifique, on n'en a pas beaucoup ici à Kinshasa. Au moins, à Goma, il y en a. Réponse, Florence?
Oui, en effet, je me souviens avoir annoncé que... un projet ou un atelier sur les énergies renouvelables, enfin, en tout cas que c'était un objectif pour la RDC, mais voilà, comme tout projet, c'est sur une durée, et là il est bien trop tôt pour pouvoir faire un premier bilan, mais je vais me renseigner auprès des promoteurs du projet, mais une fois encore, hein, c'était il y a quelques mois, donc je pense qu'il est encore trop tôt pour faire un premier bilan.
Goma, on reste avec vous, une troisième question. Allez-y.
Merci. C'est Patrick Félix Abel Charles Bambara. La situation politique en République démocratique du Congo, elle est très préoccupante, surtout par rapport à ce qui concerne le respect de la Constitution. On a une tendance du côté de la majorité de ne pouvoir pas respecter cette Constitution. Et vous, la MONUSCO, vous êtes maintenant entre les marteaux et l'encline. Je me pose cette question, s'il parvenait que les opérateurs politiques congolais veulent camper toujours sur leur position, d'abord avec l'enrôlement qui n'est pas du tout défini, ça a duré de pouvoir finir, est-ce que vous allez au moins opter du côté de la majorité ou de l'opposition, ou encore vous resterez sur les peuples qui pensent qu'il faudrait qu'au moins alternance, il y ait la paix en RDC? Merci.
Vous dites que nous sommes sous le manteau et l'enclume. Qui est le marteau et qui est l'enclume alors? Moi, je ne me sens pas entre le marteau et l'enclume. Je fais le travail qui est le mien et on le fait vraiment en toute transparence et en toute indépendance et en toute liberté. Par rapport à votre question en réalité, il faut dire que nous avons une constance et je le répète depuis plusieurs semaines déjà. On n'a pas à être pour ceci, pour cela. On a une feuille de route qui est dictée par le Conseil de sécurité, par le secrétaire général des Nations Unies. Et nous nous en tenons à ça. Et ces différentes positions des Nations Unies ont été dites depuis la dernière résolution, la 2277, en partant par, et je vous encourage d'ailleurs demain à suivre en direct sur le site web des Nations Unies, l'intervention de Ban Ki-moon devant le Conseil de sécurité. Il va réaffirmer un certain nombre d'engagements, un certain nombre de positions prises par les Nations Unies. Il va les réaffirmer, j'allais dire, à l'opinion publique internationale. Et ces positions n'ont pas différé. On veut un dialogue national qui doit déboucher sur un processus, un processus politique avec la majorité, si possible en tout cas, des partis politiques autour de cette dynamique du dialogue. Et ensuite, on verra un peu où est-ce que les résultats qu'on pourra engranger à la fin de ce dialogue. Et ensuite, les échéances électorales vont se décliner de la façon dont elles seront programmées au niveau de la CENI. Vous savez que la MONUSCO, quant à elle, est déjà travaille étroitement avec la CENI, avec les différents acteurs sur le terrain, pour que ces élections, si elles ont lieu, ne soient une réalité et soient bien organisées. Réellement, ça, c'est le fond. La lame de fond de notre position et nous nous en tenons à ça. Nous n'avons pas, comme je dis, prendre une position pour ou contre X ou Y. Nous avons une position très constante depuis le début et nous allons continuer à la maintenir. Nous revenons ici à Kinshasa pour prendre cette fois-ci plutôt à droite. Une question là, ensuite on va remonter peut-être la pente.
Ma question est...
Monsieur, vous êtes...
Danny Ngouba du journal La Prospérité. Je pose la question à Madame Marshall pour savoir que... Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a annoncé que du 20 au 30, il y aura une campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Je ne sais pas en quels termes l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations humanitaires veulent contribuer. Ma deuxième question est adressée à M. Charles Bambara. Maintenant que Mamadou Sidikou prend part au groupe de soutien pour la facilitation du dialogue, est-ce que vous ne craignez pas d'être pris à partie par certains politiciens qui ne souscrivent pas au dialogue? Voilà.
Florence, la première partie.
Oui, alors en effet, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec ses partenaires, donc au niveau des Nations Unies, c'est l'Organisation mondiale pour la santé, l'OMS, l'UNICEF, mais il y a aussi MSF, Médecins Sans Frontières, qui est l'un des partenaires. Donc, en effet, la reprise de la campagne de vaccination, parce que je vous rappelle que 2 millions de personnes ont déjà été vaccinées, pourrait reprendre à partir du 20 juillet. Des doses de vaccins sont arrivées la semaine dernière, 1 million de doses de vaccins. Elles sont conservées actuellement dans le cadre du programme élargi de vaccination. Le problème, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas suffisamment de seringues pour pouvoir faire les vaccinations. Donc, la date du 20 juillet est effectivement la date qui est annoncée pour la poursuite de la campagne de vaccination, à condition que d'ici là, il y ait réception par le pays du stock des seringues. Je vous rappelle qu'à ce jour, j'en profite pour vous dire qu'il y a, à la date du 30 juin, il y avait eu 68 cas confirmés de fièvre jaune, dont 7 autochtones. Il y a toujours des cas suspects, mais aucune confirmation n'est revenue des laboratoires ces dernières semaines, ces derniers jours. Voilà.
La participation de Maman Sambo Sidikou au groupe de soutien à la facilitation est une démarche naturelle en réalité. Elle n'est pas neuve parce que depuis le début, ça a été une position des Nations Unies que de s'inscrire dans le cadre, dans la ligne du soutien à la facilitation de l'Union africaine depuis le début. Et nous sommes restés constants également sur ce chapitre, sur ce sujet. Et je vous l'avais annoncé d'ailleurs la semaine dernière, je crois que les Nations Unies au siège à New York ont décidé de renforcer même l'équipe du facilitateur en apportant quelques experts à ce bureau de la facilitation. Ces experts sont arrivés, d'autres sont attendus. Donc petit à petit, la facilitation se renforce avec des capacités de soutien au niveau des Nations Unies. Je crois que c'est une bonne chose et parce que nous y croyons sérieusement, et c'est pas que ce soutien à la facilitation ne veut pas dire que nous soutenons tel ou tel parti ou que nous sommes tel ou tel parti. Non, c'est une position onusienne, c'est une position des Nations Unies et nous voulons le réaffirmer ici de façon claire et nette. Nous allons continuer à appuyer, apporter notre soutien clair et ferme à cette facilitation pour qu'elle puisse réussir. On va passer là en attendant j'ai l'impression que ce mercredi, beaucoup sont inspirés. Alors, tant mieux.
Ok, merci. C'est Isaac Ngwenza pour le compte de Congo Opportunities Media. Ma question est d'ordre pédagogique. Je voudrais savoir quels sont les critères que la MONUSCO ou votre politique que vous employez dans les interventions dans le cadre de Quick Impact Project. Parce que j'ai été à Manono au mois de mars. La PNC Manono n'a que 2 motos offertes par la MONUSCO, aucune Jeep. Alors que dans le rapport de ce mercredi, je vous ai entendu parler de l'octroi de 60 motos à Goma, en plus des jeeps qu'ils ont. Pourquoi cette discordance ou disproportion entre la PNC Manono et Goma? Ça, c'est votre question au colonel Amouzou. J'étais à Goma au mois de mai, je voudrais aller à Beni. C'était compliqué, il n'y avait pas moyen parce que la situation sécuritaire était très catastrophique. Et aujourd'hui, après les résultats significatifs qu'il a avancés la fois passée, est-ce qu'aujourd'hui, la MONUSCO peut autoriser la descente des journalistes à Beni pour palper du doigt la réalité sur terrain? Merci.
La descente des journalistes sur le terrain n'a jamais été interrompue. C'est vrai qu'il y a des périodes de montée de tension. On évite, et c'est normal, de mettre la vie des journalistes en danger en leur conseillant, bon, c'est peut-être pas la meilleure période pour visiter le terrain, mais j'avoue que de façon définitive, cette visite des journalistes sur le terrain n'est pas interrompue. Donc elle reprendra dès que possible et je crois que même ces jours-ci, ce serait possible éventuellement d'aller à Beni, peut-être pas dans toutes les zones de Beni, hein, parce qu'il faut pas, le territoire de Beni est vaste. Il y a des zones qui sont bien sécurisées, bien contrôlées, des visites peuvent être autorisées. Pour ce qui est de la politique des CUIPS, il faut dire que les CUIPS sont des politiques d'appui de la MONUSCO aux communautés ou aux institutions nationales au regard des besoins cruciaux qui sont les leurs et au regard aussi des priorités fixées par la mission. C'est vrai que vous n'allez pas me le contredire. La PNC est une institution forte au niveau national. Au niveau du territoire du Nord Kivu, les besoins sont immenses en matière de sécurité et ces motos, effectivement, pourront participer, comme ils le disent, comme nous l'avons dit, à rapprocher les policiers de la population afin de tenir mieux compte de leurs préoccupations sécuritaires dans cette zone au sud du Nord Kivu, qui est vraiment une zone plus ou moins où beaucoup reste à faire. Donc c'est pour cela que ces 60 motos ont été données à la PNC pour que ça serve dans cette zone du sud du Nord Kivu, donc, afin de rapprocher une fois de plus ces policiers, ces forces de sécurité de la population et de garantir encore mieux, encore plus en tout cas, leurs besoins sécuritaires dans cette zone. Et c'est pour cela qu'il y a eu ce don. Mais pour l'ensemble des autres régions, réellement c'est par rapport aux besoins de la population, par rapport aussi aux priorités de la mission, mais aussi par rapport aux différentes enveloppes disponibles pour cette équipe, cette section. C'est une vraie section de la MONUSCO qui s'appelle QUIPS, des projets à impact rapide. Donc, nous allons peut-être passer à Goma pour prendre une question avant de revenir ici boucler cette conférence de presse. Goma, une question s'il vous plaît.
Oui, c'est Daniel Michomber pour Vision Charles FM. Ma question s'adresse à Charles. Une rumeur circule sur la libération du chef des terroristes ADEF, M. Djamil Mukulu, par le gouvernement ougandais. Celui-ci se cacherait dans un village ougandais de Wassa et prépare le nouveau soutien de ses éléments. Pendant que, suite aux nombreux massacres qu'il a pu commettre au Congo, précisément à Beni, la société civile avait demandé son extradition ici au Congo pour qu'il soit jugé ici, et cela pouvait freiner les restes des terroristes qui seraient en train de terroriser chaque jour ici au Nord Kivu. Maintenant, s'il serait réellement libéré, est-ce qu'on ne pourra pas dire qu'il s'agit d'une négligence de l'Ouganda vis-à-vis de la RDC ou soit l'inactif des mécanismes de vérification? Merci.
Vous auriez dû poser cette question à l'UPDF, aux forces armées ougandaises, hein, pour qu'ils vous répondent. Monsieur Djamil Mukulu est en Ouganda, vous parlez de rumeurs. Je crois qu'au niveau des journalistes, il faut éviter de propager des rumeurs. Hein. C'est pas la peine de rapporter des rumeurs parce que, bon, voilà. Essayez de vérifier d'avoir cette information. Nous n'avons pas, nous, à notre niveau MONUSCO, une information comme quoi Monsieur Djamil Mukulu serait libéré. Nous n'avons pas cette information, nous ne pouvons pas la confirmer et nous vous demandons d'être prudents donc par rapport à cela. Voilà, nous allons revenir ici. Nous savons que d'un moment à l'autre, Radio Okapi va poursuivre ses émissions. En attendant, nous disons au revoir aux auditeurs de Radio Okapi et nous restons avec vous pour une ou deux questions avant de boucler. Une à droite, une à gauche. Allons-y.
Moi, c'est Flavien Sens pour le compte de Planète Télévision. Et Florence, je reviens, quelle est la réaction des différentes agences des systèmes des Nations Unies suite à l'opération de révision des fichiers? La CENI a dit que cette opération doit durer pendant 16 mois. C'est pratiquement une année et quelques mois. Quelle est la réaction des différents agences des systèmes suite à cette réaction de la CENI? Merci.
Alors, ma réponse ne va pas être différente de celle que Charles fait à propos de tout ce qui concerne les élections, puisque nous avons une réponse qui concerne les Nations Unies en RDC. Nous avons tous, que ce soit la mission de maintien de la paix ou les agences, nous suivons tous le mandat du Conseil de sécurité, notamment en ce qui concerne les élections. Et selon la dernière résolution, il est proposé que les Nations Unies puissent apporter un soutien technique et logistique aux opérations. Donc en fonction de ce qui est déjà le cas, puisque nous avons des personnes qui travaillent déjà avec la Commission électorale nationale indépendante. Donc tout entre dans le cadre du mandat et donné par le Conseil de sécurité. Et évidemment, les agences qui seront le plus impliquées, si elles doivent l'être dans les prochaines semaines, sont donc la MONUSCO en premier lieu, et puis le PNUD, qui, comme vous le savez, gère le projet PASEC, projet d'appui au cycle électoral au Congo, qui est un projet qui est en fait ce qu'on appelle un panier de fonds qui recueille les fonds de tous les bailleurs qui veulent investir pour soutenir le cycle électoral. Et puis, parmi les autres acteurs aussi impliqués, on a l'UNESCO qui, comme vous le savez, puisque vous en avez sans doute déjà bénéficié, organise aussi pas mal de formations pour les journalistes pour pouvoir avoir une couverture équilibrée des élections. Voilà. Mais une fois encore, donc les activités découlent du mandat et tout se fait ensemble. Et en temps voulu, nous vous informerons sur les actions, sur concrètement ce qui est fait en soutien au cycle électoral.
Monsieur, question. Allez-y.
Oui, Théodore Gandou, au compte de Télé 7. La résolution 2277, elle est sur toutes les langues, que ce soit au niveau des acteurs politiques congolais et au niveau même des Nations Unies. Mais j'aimerais savoir, en votre qualité de directeur de l'information publique, est-ce une résolution du Conseil de sécurité est opposable aux États membres ou est contraignante?
Il n'y a pas de contrainte. Je crois qu'elle donne des directions, une feuille de route. Et elle suggère que ce serait là, un trajet, une trajectoire, un cheminement souhaité par le Conseil de sécurité au nom de la communauté internationale. Et c'est tout. C'est vrai que beaucoup de résolutions sont prises pas au niveau du Conseil de sécurité, parfois exécutées à 100%, à 50%, à 75%, ça dépend. Mais le Conseil de sécurité en tant qu'organe clé du système des Nations Unies voudrait voir appliquer ces différentes résolutions, c'est vrai, à 100%. Et cette résolution, je crois qu'elle va dans le bon sens, elle adhère à ce que la communauté internationale, les Nations Unies souhaitent pour la RDC. Je crois que pour nous, nous allons essayer de mettre en œuvre l'essentiel des articles, des points mentionnés donc dans cette résolution à travers la protection des civils, les élections, la stabilisation, etc., etc. Voilà ce que je peux vous dire. Je crois que nous allons prendre une intervenante ici avant peut-être de boucler la boucle, à moins qu'il n'y ait des questions brûlantes des uns et des autres. Allez-y, madame.
Merci beaucoup. Léonora Baumann pour Agence Intuicas. Ma question concerne les attaques d'Oïcha. Vous demandez à la population de collaborer. La veille, il y a des jeunes qui ont prévenu des militaires qu'ils ont vu la présence d'hommes armés sur le territoire. Et le matin même, il y a une alerte qui a été donnée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos?
Colonel Amouzou, vous avez compris la question. Des jeunes avaient prévenu apparemment, vous dites, la veille donc de la présence de ces groupes armés dans la zone. Apparemment, ils auront dit ça au FRDC. Et ils sont intervenus. Est-ce que vous avez cerné cette question ou vous voulez qu'on la repose?
Et vous pouvez la reposer.
Vous demandez à la population de collaborer, mais la veille, il y a des civils, des jeunes qui ont prévenu des militaires de la présence d'hommes armés sur le territoire. Et leur annonce n'a pas été prise en compte.
Et qu'est-ce que vous dites apparemment? Apparemment, l'annonce faite par les jeunes la veille de l'intervention des présumés ADF sur le terrain n'aurait pas été prise en compte par les militaires sur le terrain.
Merci beaucoup. Si cela n'a pas été pris en compte, on n'aurait pas réagi et repoussé les enseignants. C'est que depuis plus d'une semaine, nous avons eu l'information que les présumés ADF pouvaient attaquer, puisque suite à nos opérations sur le terrain, il y a une forte pression qui est exercée sur les présumés éléments de l'ADF. Et ils cherchent à se ravitailler. Et ils cherchent à dissocier. C'est ce qui est important. Ils cherchent à dissocier les populations des forces régulières, FADC, MONUSCO. C'est pour cela qu'ils sont venus et chaque fois, la dernière, avant qu'ils n'arrivent à attaquer Oïcha, ils avaient d'abord attaqué un camion que les FADC ont réussi à repousser. Après ça, ils ont attaqué une position des FADC. Ils ont été également repoussés avant de venir s'attaquer à Oïcha. Donc nous suivons tout de près. Et nous avions multiplié les alertes précoces. Et cette fois-ci, je dis merci à la population civile. Parce qu'ils ont pu nous alerter à temps et nous avons pu réagir à temps. Merci.
Fin de cette conférence de presse. Rendez-vous la semaine prochaine.